des conseils et des astuces pour avoir la main verte sur notre territoire. Bienvenue dans Brin de Jardin, les chroniques d'un jardinier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Brin de Jardin, en compagnie de Romain Jacquier-Laforge, qui est jardinier. Bonjour.
Bonjour.
Romain qui nous propose chaque semaine ses chroniques sur le jardin. Et on va évoquer cette semaine différentes manières de désherber, mais de manière la plus écologique possible.
Alors, la plus écologique possible, c'est le bon terme. Donc, en fait, c'est un très, très, très vaste sujet. Je vais déjà prendre deux points différents. Donc, déjà, il faut se rendre compte que les aménagements qui ont été réalisés, en fait, on ne peut pas les entretenir des fois sans produits phytosanitaires. Si vous voulez, on a eu une habitude de produits phytosanitaires. Alors, quand je parle de produits phytosanitaires, je parle plutôt des chimiques de synthèse. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut penser en pensant à ça, tout simplement le Roundup, hein, qui est le désherbant le plus utilisé au monde, encore aujourd'hui, bien sûr, puisque la France, ça représente pas grand-chose du monde. Donc, voilà. Et donc, on a créé des choses qui paraissent belles dans un premier temps et après qui ont en général tendance à... si on peut pas les traiter, partent en cacahuète, on peut le dire comme ça. Et puis après, on a des exigences de, alors je vais mettre des gros guillemets, mais de propreté. Hein, de propreté, parce que propreté, on n'est pas tous d'accord sur le terme, bien sûr. Hein, quand on parle avec d'autres personnes, on se rend vite compte qu'on n'a pas les mêmes attentes, pas les mêmes niveaux d'exigence. Donc, qui ont été acquises durant cette même période, en fait, de produits phyto. Rien de plus simple, en fait, que de passer un désherbant. Alors, surtout quand on le passait en short et en tong et qu'on faisait son mélange en remettant un petit peu parce qu'on sait jamais, c'est un petit peu, il vaut mieux mettre un peu plus que pas assez. Donc ça, c'était des choses qui ont été faites, bien sûr, qu'il faut plus faire. C'est dangereux pour la santé déjà humaine, hein, avec le recul, on le retrouve. Et puis après, on retrouve des résidus de pesticides dans l'eau, enfin voilà. C'est très très mauvais. S'il vous reste chez vous d'ailleurs des produits phytosanitaires de synthèse, je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2019, si je me trompe pas de date, enfin si c'est à un an près c'est tout, il est interdit de stocker chez soi des produits phytosanitaires de synthèse, style Roundup ou d'autres choses comme ça. Si vous avez du garlon ou des vieux produits, c'est interdit. Alors après, bien sûr, il est interdit de les passer. Donc vous devriez les ramener à votre déchetterie. Il faut pas avoir un souci, il faut pas se faire contrôler par la police de l'eau avec des produits comme ça chez vous ou pas en mettre, hein, parce que si on retrouve des résidus dans l'eau qui passe pas très loin de chez vous, vous risquez d'avoir des problèmes, ça peut être de la prison, ça peut être des amendes conséquentes. Donc je préfère bien le redire maintenant, quoi, voilà. Alors, il faut savoir aussi que même les paysagistes n'ont plus le droit d'utiliser ce genre de produit. Il n'y a plus que les agriculteurs qui sont soumis à un contrôle strict en règle générale, alors strict plus ou moins, on va dire, mais voilà, qui doivent avoir des locales phytosanitaires, qui doivent les utiliser que pour la culture autorisée, à la dose autorisée, un nombre de fois autorisé par an. Donc voilà, les agriculteurs ont encore ces produits-là, mais c'est très très encadré. Et c'est pareil pour eux, les conséquences, s'il y avait un problème, peuvent être catastrophiques. Donc, peut-être la première chose à voir, en fait, c'est tout simplement, quand on a fait ces deux premiers points au départ, c'est des fois de voir ses exigences à la baisse, en fait. Hein. Il faut se dire que, tout simplement, ce qu'on a vécu à un moment, ça n'existe plus, et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça, c'est tout.
Et est-ce que les exigences n'ont pas d'ailleurs tendance à baisser ces dernières années, justement, avec le fait que ces produits soient maintenant interdits, et puis que les gens aient plus conscience, tout simplement, aussi des considérations écologiques? On voit souvent maintenant même... Dans les villes ou par exemple sur les ronds-points, des ronds-points qui sont beaucoup moins entretenus, qui sont...
Ça rentre dans les mœurs. Et il faut savoir que moi, j'étais formateur au CFPPA et que j'avais beaucoup de gens au départ qui venaient des communes faire des formations. Pour eux, ça a été un peu la croix et la bannière parce que les pauvres ont été soumis à des injonctions de gens qui habitaient dans les communes et aussi de leur hiérarchie au-dessus qui leur demandait de tenir propre alors que c'était plus possible. Et eux étaient responsables et ils ne pouvaient pas.
Est-ce que le CFPPA, on peut rappeler peut-être pour vous?
C'est un centre de formation pour les adultes et les apprentis, voilà, qui est à Romans. Enfin, il y en a un à Romans, voilà, c'est là où je travaillais. Et donc, on a des formations justement certifito ou pour gérer l'enherbement d'une autre façon, voilà. Et c'est vrai qu'en fait, ces gens qui venaient, ben, ils se faisaient engueuler. On leur leur demander de faire des choses qui étaient interdites. Enfin voilà, moi j'ai presque tout entendu, c'était horrible.
Oui, le chemin est encore long alors.
Voilà, alors maintenant ça s'est quand même amélioré et c'est vrai que c'est rare les gens qui râlent vraiment encore. Après il faut voir qu'il y a une grosse différence en plus entre, bon alors nous on est à la campagne vraiment ici, mais dans les grandes villes ils ont été un peu en pointe à un moment là-dessus par rapport à nous. Certaines fois qu'il y avait des mauvaises habitudes, ben on est plus proche du monde agricole, donc peut-être que ça avait changé ça aussi quelque part, mais voilà. Mais maintenant on va tous à peu près dans le même sens, c'est à peu près sûr. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, voir un petit peu ces exigences peut-être à la baisse, si on en a encore des trop hautes, parce que moi en jardinerie j'ai encore des gens qui viennent me voir toujours et qui me demandent encore des produits chimiques de synthèse, et je leur explique que depuis 2019 c'est toujours pas autorisé et que ça reviendra certainement jamais. Il faut quand même l'accepter. Voilà, c'est une réalité de terrain, tout simplement.
Et quelles sont les solutions alors alternatives pour le désherbage?
Alors, on va prendre, on va faire un petit peu toutes ces solutions, et puis après je reprendrai sur deux points très spécifiques. Donc, d'abord la méthode mécanique. Alors, méthode mécanique, c'est bien joli à dire comme ça, mais c'est toujours pareil. C'est pas parce que c'est facile à dire et entre guillemets à faire que voilà, c'est pas contraignant. C'est très contraignant, donc ça va être plutôt de l'arrachage à la main, et ça va être aussi beaucoup d'outils. Donc des outils. Alors après, ben oui, quand on a un grand jardin, et ben le sol est bas, je le sais. On est tous dans le même cas de figure, voilà. Et donc c'est quelque chose d'un peu fastidieux. Surtout qu'il y a des plantes qui s'arrachent très bien, ou des moments où quand la plante commence à germer, par exemple, des choses comme ça, où c'est très très facile. Un petit coup de binette et ça va très bien. Et puis après, par contre, quand une plante est enracinée depuis un petit moment, ou le système racinaire est très profond, là, c'est, on n'est pas dans le même cas de figure. Et puis après, il y a aussi des problèmes qui, si vous êtes dans du gravier ou dans des choses comme ça, ben, ça va être compliqué d'intervenir mécaniquement dedans, quoi. Donc après, vous avez d'autres possibilités. En général, c'est les brûleurs. Alors, tout ce qui va être brûleur à gaz ou infrarouge. Donc ça, c'est des choses qui ont été très développées au départ. Puis après, bon, alors moi, assez rapidement, je me suis rendu compte que quand même c'était une bonne mauvaise idée, parce qu'en fait, bien sûr, vous allez dégager dans l'atmosphère du CO2 si, par exemple, vous brûlez au gaz. Enfin, vous...
Parce que comment ça se présente, ces petits appareils?
Alors en fait, ça va être comme une espèce de canne. Alors, il y a plusieurs modèles, hein, et puis il y a des modèles pour les professionnels qui sont gigantesques, mais autrement, ça va être plutôt... Là, je parle que du particulier aujourd'hui, hein, parce qu'après, il y a d'autres choses pour les professionnels, mais c'est pas le cas du... C'est pas la peine de rentrer dedans. C'est une espèce de canne, en fait, désherbeur, avec une cartouche de gaz que vous allez venir insérer, ou venir en tout cas relier. Et puis après, donc, avec une flamme, vous passez ça proche de votre plante. Alors, il n'y a pas besoin de rester très longtemps, parce que c'est pareil, des fois, les gens ont l'impression qu'il faut brûler la plante. En fait, c'est le choc thermique qui va détruire les cellules, et donc qui va faire après que votre plante va noircir. Sinon, après, vous avez alors les infrarouges. C'est vrai d'ailleurs que ça, c'est plutôt une technique professionnelle, mais c'est toujours le même principe, c'est d'amener une source de chaleur très proche de la plante qui va faire éclater les cellules. Enfin voilà. Alors ça marche bien. Et il y a aussi un côté vicieux, ça marche bien sur des plantes qui ont un système racinaire un peu faible et tout, des choses comme ça. Parce que bien sûr, si vous mettez ça sur une on ne peut pas imaginer faire du lierre comme ça ou du bambou comme ça. Hein. Voilà, il y a certaines plantes, de toute façon, dans n'importe quel cas de figure, c'était déjà compliqué avec des produits chimiques. Alors, avec des produits qui sont plus gentils, ça va être plus difficile. Donc voilà. Mais il faut pas rester très longtemps, et donc on passe de plante en plante. Alors ça peut avoir justement un intérêt des fois sur les dalles ou sur du gravier, mais il faut toujours voir aussi le contre-coup. C'est que si vous mettez une bouteille de gaz derrière, ben voilà, vous utilisez du gaz. Il y a toujours c'est quelque chose d'assez paradoxal quelque part. Après, en règle générale, vous avez aussi tout ce qui est produits phyto qui se vendent en jardinerie. Et c'est plutôt de cela que je vais vous parler un peu plus facilement. Donc maintenant, ce sont des produits qui sont à un impact faible sur l'environnement. Alors, impact faible ne veut pas dire pas d'impact. Hein, voilà. De toute façon, tout ce que vous allez faire va avoir un impact. Mais en principe, vous avez deux matières différentes. Donc, on parle de matière active pour la matière qui va agir sur la plante, en l'occurrence. Puis après, vous avez des adjuvants qui sont dedans. Donc, des adjuvants qui vont vous permettre de une meilleure adhérence du produit. Enfin, voilà, de miscibilité du produit. Donc, une capacité à ce que le produit se soit mélangé avec de l'eau. Voilà, des choses comme ça. Mais la molécule active, en général, c'est soit de l'acide pélargonique, soit de l'acide acétique. Alors l'acide acétique, c'est ce qu'on appelle en règle générale du vinaigre blanc. Donc ces produits-là vont avoir vraiment des actions, c'est des produits qui sont homologués, qu'on a le droit d'utiliser, qui vont avoir donc des actions sur les végétaux, mais toujours pareil, sur des végétaux qui commencent à germer, sur des plantes très sensibles, voilà. Et imaginez pas passer ça sur du lierre, pareil, toujours ou du bambou, et avoir une action probante. Ça va vous brûler la plante, ça n'empêchera pas la germination, ce qui peut être un avantage, puisqu'en fait vous pouvez passer ça à un endroit et après ressemer assez rapidement et vous aurez une germination de plante, il n'y a pas de souci. Mais la durée d'efficacité voilà, est limitée et faible. Et parfois, c'est des produits qui sont finalement quand même assez chers. Assez cher en fait à l'utilisation. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, alors c'est moyen ce que je vais vous dire, mais je me rappelle d'un litre de glyphosate en peut-être 2005 ou 2008, ça coûtait peut-être 8,90 €. Ça vous permettait de traiter 2 500 m² de terrain et d'une manière très efficace. Mais quand je dis très efficace, on est bien d'accord aussi, très peu écologique. Maintenant, pour peut-être traiter 75 m², ça va vous coûter peut-être 10 ou 12 €, voire un peu plus. Donc voilà, les prix ont été multipliés par voilà, il faut même pas calculer. Voilà, on ne calcule pas. De toute façon, voilà, on reviendra pas en arrière.
La santé de la planète n'a pas de prix. De toute façon.
C'est un peu ça, voilà. Et après, donc après, sinon, vous avez des systèmes D. Alors, tout le monde a un peu son système D. Tout simplement, l'eau de cuisson des patates ou l'eau bouillante, ça marche très bien. Bon, ça brûle la plante sur le coup, hein. C'est pas la peine d'en mettre des litres et des litres. Et c'est toujours peu efficace, bien sûr, sur tout ce qui va être lierre ou ronce ou bambou. Après, il y a d'autres personnes qui font des fois des mélanges. Alors après, voilà, ça peut être avec du sel, avec de l'acide. Ça peut être avec de l'acide acétique toujours, hein. Je veux dire donc du vinaigre blanc. Faites attention parce que bien sûr, il faut le limiter. Alors vraiment aux endroits où vous allez pas cultiver, parce que le sel dans le sol, c'est très mauvais pour la terre. Enfin voilà. C'est très mauvais. Si vous avez des arbres qui viennent et qui ont des racines qui vont très loin, ça peut aussi les gêner un peu. Donc voilà, je parie un peu moins sur ce genre de choses, même si ça marche. Voilà. En tout cas, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et donc, je vais revenir à deux points très précis, parce que souvent les gens me parlent de gazon et puis après d'allées gravillonnées. Alors, les allées gravillonnées, le problème, c'est que si vous venez avec un outil et vous allez venir enlever la couche qui est compacte, en fait, vous allez en plus augmenter la capacité de germination. Donc, c'est vrai que là, la meilleure chose, c'est encore éventuellement l'eau bouillante ou l'eau de patate, ou alors après, bien sûr, les produits homologués avec de l'acide acétique ou de l'acide pélargonique. Vous retrouverez dans le commerce. Et après, donc, le gazon. Alors, le gazon, le problème, c'est qu'on a des fois des personnes qui ont encore une vision du gazon comme un terrain de golf. Il faut savoir que moi, j'avais des gens qui, des fois, venaient au niveau des terrains de golf pour être formés. Un jour, on m'a expliqué que les turricules de vers de terre, donc les petits amas qui sortent de terre, voilà, par les vers de terre, c'est très problématique pour un golf. Et donc, en fait, dans le temps, on mettait des produits pour tuer les vers de terre. Donc moi, quand j'ai compris ça, j'ai bien compris qu'en fait, c'était pas du tout écologique. En tout cas, gérer de cette façon-là. Donc après, il faut toujours faire attention. Un gazon, si vous voulez un très beau gazon, ça va vous demander du temps, beaucoup de temps, de tonte, éventuellement nettoyer tous les pourtours, enfin voilà, faire toutes les choses comme il faut. Vous allez devoir, bien sûr, si vous voulez un très beau gazon, le fertiliser, donc mettre de l'engrais. Vous allez devoir éventuellement le défeutrer, donc ça veut dire passer des scarificateurs pour enlever les amas d'herbes ou la mousse qui se dépose. Vous allez éventuellement donc mettre des produits pour tuer la mousse, puisque la mousse, c'est l'ennemi du gazon. Donc après, il y a d'autres façons de gérer, hein. Je dis pas le contraire, voilà. Mais la façon basique de gérer un gazon, c'est très mauvais. Vous allez devoir l'arroser l'été, bien sûr. Et puis après, sans vous parler donc des allers-retours à la déchetterie, parce que quand on a fait tout ça bien comme il faut, et ben c'est que ça pousse le gazon. Sans parler donc de l'essence que vous allez mettre dans votre tondeuse ou des choses comme ça. Donc un très très beau gazon, de toute façon, il est beau pendant quelques temps. Après, il se salit inévitablement, puisque les graines qu'il y a dans le sol vont germer, ou les graines qui vont arriver par le vent vont germer. Donc voilà, abandonner un peu l'idée du vrai beau gazon. On n'est pas ni en Écosse ni voilà.
Oui, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on est dans la liste? C'est vrai que peut-être qu'il vaut mieux tout simplement revoir ses attentes dont on parlait tout à l'heure.
Parce que la seule autre façon, en fait, après, c'est de refaire votre gazon. Mais là, on rentre dans un cercle sans fin, puisqu'en fait, tous les X années, il va falloir refaire votre gazon pour retrouver donc cette qualité de gazon que vous attendiez. Donc voilà, moi, je vous dirais abandonner un très 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 beau gazon. Voilà.
Votre conseil, Romain, donc sur le gazon, et j'ai quand même une toute petite question pour terminer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre le lierre, la ronce et le bambou ?
Alors, oui, alors arracher. Alors, moi, la ronce, je me rappelle que les anciens disaient vers le 15 août. C'était la bonne époque pour essayer d'y arracher. Ça reprenait moins bien. Après, le bambou, malheureusement, il va falloir amener une mini-pelle éventuellement pour arracher tout ça. Donc, je rappelle quand même qu'on peut mettre des variétés de bambou qui courent pas de partout, mais voilà, mais le bambou... Non, parce qu'après, sinon, ce serait certainement des façons de traiter qui sont interdites et que je vous donnerai. Donc voilà, c'est très mal. Et le lierre, pareil, il va falloir l'huile de coude. Malheureusement, l'huile de coude, c'est pas toujours si simple que ça, quoi. Voilà.
Oui, c'est parfois donc la meilleure solution. Merci beaucoup, Romain, pour cette chronique sur le désherbage, donc le plus écologique possible. Et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Brin de Jardin.
À bientôt.
Et pour bénéficier des conseils de Romain, n'hésitez pas, chères auditrices et chers auditeurs, à lui envoyer vos questions écrites ou donc par message vocal, par mail à brindejardin@gmail.com, brin au pluriel. À très bientôt.